Alors, à ceux qui sont habitués à ce rendez-vous du samedi soir, le culte du samedi soir, mais aussi aux autres,
du dimanche soir,
c'est que le catéchisme a lieu le samedi, j'ai pu faire un lapsus. Donc à ce culte du dimanche soir, mais aussi aux autres, aux invités, aux amis, aux passants qui sont hantés par curiosité ou par envie, vous avez noté la particularité de ce culte. Car ce sont les catéchumènes qui l'ont mené, qui ont choisi les textes, la liturgie, mais qui ont aussi nourri la méditation que nous vous offrons ce soir et que nous allons vous offrir à trois voix. Je suis donc chargée de l'introduire, et de l'introduire sur la base de ce qui a été dit par les catéchumènes sur ce texte de Matthieu. Et s'ils se souviennent bien, j'avais pris des notes. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ils avaient dit d'abord sur cette parabole des deux maisons qu'en fait, on ne parle que d'une seule maison. Une maison qui est en fait partagée. Partagée entre des éléments solides et puis des éléments fragiles. Car en fait, on relève certains mots. Certains mots qui résonnent en nous comme quelque chose de solide. Le roc, la fondation ou le mot bâti. Et puis d'autres qui résonne en nous comme quelque chose de fragile, comme le sable, la ruine, la pluie ou le mot abattu. Il y avait en fait une sensation de partage, mais certains mots, ils n'arrivaient pas à les classer. Ils n'arrivaient pas à dire si c'était solide ou fragile. Par exemple, le mot homme. Est-ce que c'est solide ? Est-ce que c'est fragile ? Et puis ils m'ont dit, ben les deux, car l'homme est changeant, il est à la fois solide et fragile. Et puis la tempête, est-ce qu'elle est solide ou alors est-ce qu'elle est fragile ? Et ils m'ont dit, ben la tempête, elle sert de révélation, elle révèle ce qui est solide ou elle révèle ce qui est fragile lorsqu'elle souffle sur la maison. Et puis la maison, le point central de cette parabole, est-ce qu'elle est solide ? Est-ce qu'elle est fragile ? Et puis on a discuté autour de la maison et je me suis livrée à une question que je vous soumets aussi ce soir. Pourquoi Jésus utilise l'image de la maison dans cette parabole ? Alors, on en avait parlé avant avec les pasteurs, et puis la réflexion bibliste, ou le spécialiste de l'Évangile, dirait ben, « Jésus, il était charpentier ». Donc voilà pourquoi il parle de la maison. Mais quand on en avait parlé, nous, le samedi, les réflexions que j'ai eues, je vous les livre très simplement. Ils m'ont dit, on parle de la maison parce que c'est le lieu où on peut se reposer, c'est le foyer, c'est le lieu où on est protégé. Ils m'ont aussi dit que la maison est une image pour représenter la vie qui varie selon le fondement. Et puis je leur ai demandé, mais alors quel est le fondement ? Eh bien le fondement, ça peut être la foi, la parole de Dieu, la prière, l'écoute. Mais si on n'est pas vraiment ancré dans quelque chose d'évangélique, ça peut être tout simplement le fait d'être sincère, le fait d'être honnête. Et donc alors, on a quelque chose qui est basé sur du solide ou quelque chose qui est basé sur du fragile. Et enfin, et avant de passer la parole à Andreas, et la meilleure, je crois, en tout cas, quelque chose que je n'avais pas vu dans ce texte, ils m'ont dit, la maison, elle est aussi utilisée parce qu'elle peut être reconstruite lorsqu'elle est détruite. Et en cela, je trouve qu'on a une solution à la fin du passage lorsque l'évangéliste dit « sa ruine a été complète ». Oui, on utilise ce passage de la maison car on n'est pas invité à une fatalité. On est invité à pouvoir reconstruire lorsque la ruine arrive.
Pas de doute, à travers cette parabole sur la maison qui reste debout ou s'écroule au moment de la tempête, Jésus s'adresse à chacun de nous et nous questionne sur quel fondement ou base je construis ma vie. Pour une fois, ce n'est pas toujours le cas, Jésus donne lui-même la réponse ici. Relisons le début. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique construit sa vie sur un roc solide. Quand tempête arrive, les fondements tiendront et sa vie ne s'effondrera pas. Voilà une belle et forte question que Jésus nous pose ce soir à travers ce texte. Sur quel fondement ou valeur je construis ma vie ou nous construisons ensemble notre vie? Question très large. L'expérience de la vie, comme dans cette parabole, montre que parfois les choses se passent mal quand à la base il y a une faiblesse ou un mauvais départ, une erreur, quelque chose pas solide. Il y a des choses qui peuvent s'effondrer dans notre vie. Les jeunes ont dit, oui, quand on a parlé avec eux, dans un camp d'été, si au début on n'a pas bien expliqué les règles aux enfants, ça peut poser des problèmes à la fin du camp. Et les tentes mal montées, ils connaissent aussi. Mais ils sont dit aussi dans une amitié. Si, par exemple, le mensonge s'infiltre, ça peut, un jour ou l'autre, tout casser, abîmer l'amitié, détruire l'amitié. Et cela, nous le savons tous, qu'il y a des choses qui peuvent casser nos relations, aussi de couple ou entre enfants et parents. Et des choses finissent parfois par clasher, voire s'effondrer. Jésus dit, celui qui écoute ma parole et la met en pratique, sa maison reste debout même quand la tempête arrive, elle résistera. Écoutez la parole de Jésus. Il faut savoir qu'il dit ceci à la fin de beaucoup de paroles qu'il a dit. Il y a 3 chapitres chez Matthieu et notre parabole vient à la fin. C'est tout l'enseignement qu'on appelle le sermon sur la montagne qui a précédé. C'est toute cette parole. Je le résume avec Jésus lui-même dans une phrase que Jésus nous a donnée, qui peut faire le fondement de toute notre vie. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Voilà. S'aimer les uns les autres à la manière de Jésus. Pour cela donc, il faut regarder la vie de Jésus et c'est ce que nous faisons au culte chaque dimanche. On écoute l'évangile, nous regardons la vie de Jésus, nous l'écoutons pour savoir ce que ça veut dire pour notre vie de s'aimer les uns les autres à la manière de Jésus. Celui qui a tendu la main vers ceux à marge de la société de son époque, accueilli les petits, aussi les enfants, qui a pardonné, qui a guéri les autres, qui a servi les autres. Tout cela nous montre ce qui est ce fondement pour notre vie dont Jésus nous parle. Nous sommes là le dimanche au culte pour écouter toujours à nouveau qu'est-ce que c'est vraiment important, qu'est-ce qui fait un fondement pour notre vie avec Jésus. Sans oublier que Jésus vit lui-même cela dans sa relation à Dieu, par sa confiance en Dieu. Lui-même, il trouve son fondement dans sa relation avec Dieu. Je termine avec ceci. Jésus ne nous promet pas que la vie sera sans tempête. Il y aura toujours des tempêtes dans notre vie et parfois des grandes tempêtes et ce n'est pas toujours facile à vivre. Jésus le sait fort bien. Mais il dit, celui qui chemine avec moi et fait confiance à ma parole et qui met comme moi sa confiance en Dieu. Les tempêtes de la vie ne peuvent pas l'enlever, cet amour de Dieu pour toi. Tu peux toujours retrouver en Dieu la force de rester debout, de se relever, de recommencer, de pardonner, de continuer le chemin. C'est cela, une maison qui ne s'écroule pas, nous dit Jésus.
Une maison, donc, c'est l'image que prend Jésus. Vous savez que Jésus parlait sans doute en araméen, mais que le texte de l'évangile est en grec, et que le mot « maison » En grec, ça se dit oikos. Oikos, ça a donné trois mots importants en français. Ça a donné le mot économie, par exemple. L'économie, c'est les règles qui régissent le fait de vivre ensemble dans une même maison ou au même groupe. Ça a donné le mot écuménisme. L'écuménisme, c'est l'ensemble de la terre habitée. Et par extension, c'est devenu ce qui représente l'ensemble des églises chrétiennes qui, à travers la terre entière, peuvent vivre l'évangile et le vivre ensemble. Et puis oikos, ça a donné un troisième mot en français, c'est le mot écologie. L'écologie, c'est l'étude de ce qui fait que nous sommes en lien ensemble, dans un même milieu naturel, êtres vivants qui partageons un même destin. Écologie. Vous savez que nous sommes dans une série de cultes qui parlent de la question des défis qui sont devant nous sur cette planète. Koussou et Andreas ont insisté sur cette dimension de la confiance qui est là pour nous aider à vivre dans nos vies personnelles. Mais qu'en est-il dans nos vies collectives? Et notamment face à ce défi énorme d'une crise que nous sentons être là devant nous et en nous et par rapport à laquelle nous avons peut-être des choses à vivre. Qu'en est-il de cette responsabilité pour la maison commune qui est la planète? Alors traditionnellement, il y a dans les différentes philosophies ou religions deux tendances. Une première tendance, c'est de se dire, eh bien, notre vie compliquée, si difficile, si violente, si polluante, si urbaine, eh bien, à l'arrivée, il y aura un jardin. C'est une utopie, en fait, de régression. C'est une utopie qui se rappelle qu'avant, il y avait un jardin et qui donne envie d'y retourner. Mais on ne peut jamais retourner en arrière. Et puis, il n'est pas sûr que la vie était plus facile pour les gens qui vivaient de la cueillette ou de la chasse. L'autre utopie, c'est le ciel. C'est de fuir, de se dire, voilà, on s'évade de la réalité, on essaie d'être ailleurs, parce que c'est trop dur. C'est une utopie qui est négative sur ce que nous vivons, puisque le but, c'est de s'en éloigner. Qu'est-ce que la Bible nous propose? Eh bien, la Bible nous propose comme espérance, non pas un jardin, ça c'est au début, dans la Genèse, elle ne nous propose pas le ciel, elle nous propose à la fin de la Bible une ville, c'est-à-dire un endroit où il y a plein de maisons, c'est-à-dire l'endroit où nous vivons. Alors je ne vais pas être trop long, j'ai détaillé ça ce matin dans la prédication à Pontmont. Le texte va être sur le site de la paroisse, donc vous pourrez lire en détail, mais je voudrais juste vous dire trois choses. La première chose, c'est que c'est très surprenant que la Bible nous parle d'une ville comme espérance, parce que dans la Bible, la ville, c'est plutôt négatif. La vie ensemble, les maisons, l'urbanisation, c'est Babel, c'est Ninive, c'est Sodome, c'est Babylone, enfin ce sont des lieux qui sont des lieux de violence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, de solitude et d'agressivité dans les villes. La deuxième chose, c'est que si Dieu nous promet une ville, c'est qu'il veut nous rejoindre là où nous sommes, parce que c'est là que nous vivons. Mais dans la Bible, si la ville est si mauvaise, c'est que c'est le lieu de l'orgueil de l'être humain. C'est là où l'être humain veut vivre sans Dieu. Alors Dieu propose une ville, mais pour que nous y vivions avec Dieu. Il propose une Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, c'est-à-dire, c'est une image, pour dire un lieu qui nous rassemblera, qui nous est donné, et où il vivra pleinement avec nous. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que ça nous donne confiance dans la difficulté de vivre ensemble, et si nous élargissons la planète, c'est tellement angoissant. Si nous avons cette espérance que Dieu nous promet un avenir de plénitude avec nous, alors c'est la confiance. Pas que pour nos vies, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et cette confiance, elle se décline d'une part en étant libre par rapport à toutes nos peurs. Parce qu'il n'y a rien de plus paralysant que d'avoir peur. Quand on a peur, c'est un peu comme si on est sur du sable. La confiance, la joie, l'humour, le recul, enfin tout ça c'est extrêmement important, même quand on a l'impression que c'est difficile. Et ça nous appelle, et c'est ça qui est important, non pas à faire une confiance aveugle en Dieu, mais à s'engager pour déjà vivre cette ville que Dieu nous propose et dont il nous dit que ce sera, c'est dans l'Apocalypse vers la fin, la demeure de Dieu parmi nous. Il demeurera avec nous et nous serons son peuple. Dieu lui-même sera avec nous. Il sera notre Dieu. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de lamentation. Il n'y aura plus de douleur. Voilà ce que Dieu nous propose de vivre quand nos vies, quand notre vie ensemble est bâtie sur le roc de sa parole, sur la confiance qu'il nous donne, être témoin autour de nous, sur cette terre, dans cette ville, d'une espérance joyeuse et heureuse. Puissions-nous construire ainsi nos vies. Amen.